universel. Washington, la voix de l'Amérique. Vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui. Retrouvez-nous aussi sur Internet, Facebook et sur votre portable.
Édition du jeudi 7 août 2014, en direct du Studio 13, ici à Washington, Camille Grosdidier et Chérubin Dorsil. Bonsoir Chérubin.
Bonsoir Camille.
Au sommaire ce soir, les djihadistes de l'État islamique s'emparent de la plus importante agglomération chrétienne en Irak. À Washington, le Pentagone considère ses options.
Au Caire, c'est la course contre la montre en vue de trouver un accord de cessez-le-feu entre Israël et le Hamas palestinien.
Fin du sommet États-Unis et Afrique, les chefs d'État et de gouvernement font un bilan positif de l'événement.
Alors, je crois que ce débat, il est bien sûr instructif même pour nous, oui, pour comprendre que dans la République, oui, sur des questions du genre, on peut en débattre librement.
Le président burkinabé Blaise Compaoré. En République centrafricaine, les consultations se poursuivent pour la nomination d'un nouveau Premier ministre.
Et bien sûr, on terminera avec les sports et la musique, mais tout d'abord le journal.
Nous ouvrons en Irak. Les extrémistes islamistes ont conquis d'autres territoires dans le nord du pays en s'emparant du plus grand barrage et de plusieurs villes essentiellement chrétiennes. Et ils ont forcé ainsi des milliers d'habitants à s'enfuir, Michel Joseph.
Ce barrage fournit de l'eau et de l'électricité à des millions d'habitants à Mossoul, la principale ville du nord que les militants islamistes occupent depuis le 10 juin. Mais les forces kurdes disent toujours contrôler le barrage. Les djihadistes sunnites ont lancé hier une offensive nocturne près de la région semi-autonome kurde et occupé plusieurs localités, dont Karakosh, la plus grande ville chrétienne d'Irak. Des dizaines de milliers de civils ainsi que les combattants kurdes qui les protégeaient ont pris la fuite selon des ecclésiastiques de la région. Le pape François a appelé la communauté internationale à aider à mettre un terme à la tragédie humaine en Irak. La France a demandé une réunion d'urgence du Conseil de sécurité de l'ONU. Le groupe dénommé État islamique a conquis en juin des pans entiers de l'Irak pour y déclarer un califat.
Le chef de la mission de l'ONU en République démocratique du Congo menace d'utiliser la force militaire contre le groupe FDLR s'il ne dépose pas les armes immédiatement. Nicolas Pineau.
Le patron de la mission onusienne dans le pays a fait cette déclaration devant le Conseil de sécurité. Il a menacé d'une action militaire les derniers rebelles des forces démocratiques de libération du Rwanda qui refuseraient de déposer les armes. Martin Kobler a recommandé que la MONUSCO et les FRDC lancent des opérations contre ces rebelles qui continuent de commettre des violations des droits de l'homme, selon lui. Leur commandant suprême, Sylvestre Mudakumura, est recherché par la Cour pénale internationale pour crimes de guerre et crimes contre l'humanité en RDC. Selon M. Kobler, 11 000 combattants des FDLR ont été désarmés et réintégrés dans la société rwandaise depuis 2002, et il en reste environ 1 500 en RDC. « Nous sommes proches de la fin de ce processus », a assuré M. Kobler devant le Conseil de sécurité.
Dans le nord du Cameroun, il y a eu un nouvel accrochage entre les militaires camerounais et les islamistes de Boko Haram qui ont attaqué hier Zigagé, un village frontalier avec le Nigeria. On signale au moins 12 morts, dont 2 assaillants et beaucoup de dégâts matériels. Au micro de Moki Edwin Kinzeka, correspondant de La Voix de l'Amérique, écoutons le chef de l'État camerounais, Paul Biya.
On a affaire à un ennemi pervers, sans foi ni loi, qui attaque les nuits, qui égorge, et ils ont évidemment, fait des exactions. Les Camerounais doivent garder confiance. Le chef d'état-major, je l'ai envoyé là-bas pour réorganiser notre dispositif. J'ai envoyé des secours, des renforts en hommes et en matériel. Et je crois que les jours à venir montreront que nos efforts pour organiser une riposte et une défense de notre territoire sont efficaces. Je salue également nos soldats, dont certains sont tombés, qui ont fait montre de patriotisme, de bravoure. Et je les encourage à aller de l'avant. Pour tous les Camerounais, je dis ceci, dans la vie d'une nation, il y a des moments difficiles. En ces moments-là, il faut faire preuve de courage, de solidarité et de patriotisme.
Paul Biya, le président du Cameroun.
En République centrafricaine, les consultations se poursuivent pour la nomination d'un nouveau Premier ministre alors que la rue réclame la reconduction d'André Nzapayeke à la primature. On fait le point avec Idriss Fall.
Les manifestants, une centaine de jeunes, étaient devant le Parlement provisoire pour réclamer l'application des résolutions 2121 et 2127 du Conseil de sécurité de l'ONU, ainsi que le maintien à la tête de la transition du trio Samba-Panza, Nguende et Nzapayeke. Biris Ngilbert, un des manifestants.
Nous sommes devant l'Assemblée aujourd'hui pour manifester notre mécontentement par rapport à la démission de notre Premier ministre. La conférence de presse que M. le Premier ministre a fait, il a parlé aussi qu'il n'est pas obligé de quitter son fauteuil. Mais c'est par rapport aux pressions de l'opinion internationale qu'il est obligé de quitter.
Les consultations se poursuivent donc pour la nomination du futur Premier ministre. Par ailleurs, polémique au sein de l'ex-Séléka autour de la suspension de Mohamed Moussa Dafane par le général Noureddine Adam. Ahmed Nedjab Ibrahim, porte-parole de l'état-major des ex-Séléka, dit que c'est du pur désordre.
Moi, je pense que ça, là, c'est en quelque sorte du désordre. Il n'a pas consulté la base, premièrement, et je vois que c'est une décision individuelle. Aujourd'hui, on reconnaît le pouvoir de Mohamed Moussa Dafane et de Taïb.
Notons que dans le 4e arrondissement de Bangui, un affrontement a été déjoué de justesse par les forces internationales entre des militaires centrafricains et des anti-Balaka.
Face à la propagation de l'épidémie d'Ebola, le Libéria a décrété l'état d'urgence, tandis que le Nigeria confirme 7 nouveaux cas, dont 2 décès. Le point avec Lola Akomachri.
Le Libéria a décrété 90 jours d'état d'urgence face à la propagation de la fièvre hémorragique Ebola. La partie est du pays la plus touchée par le virus a été mise en quarantaine, tandis que l'armée nationale a bloqué tout mouvement de la population de l'ouest vers la capitale Monrovia. Les écoles et des marchés à proximité des zones à risque ont été fermés. Le personnel non essentiel de l'administration publique a été également mis en congé forcé. Le pays a déjà enregistré 282 victimes. L'épidémie a atteint le Nigeria hier avec le décès à Lagos d'une infirmière. 5 autres membres du corps médical ont été placés en isolement. Le personnel hospitalier a suspendu sa grève. Et en Sierra Leone, la police a encerclé des zones à risque pour éviter tout nouveau foyer. Un Saoudien qui avait séjourné dans ce pays est décédé hier à Jeddah, en Arabie Saoudite. Ce matin, l'Espagne a rapatrié depuis Monrovia 3 citoyens, 2 religieuses et 1 prêtre infectés par le virus.
2 adultes ont été condamnés à la prison à vie jeudi en Égypte et un adolescent à 20 ans de réclusion pour des agressions sexuelles lors d'une manifestation. La peine de prison à vie se traduit par un maximum de 25 années de détention en Égypte. Le nouveau pouvoir du président Abdel Fattah al-Sissi avait promis de sévir contre les hommes auteurs d'agressions sexuelles, notamment lors de rassemblements publics.
En Afrique du Sud, le procureur au procès d'Oscar Pistorius a requis une condamnation pour meurtre contre l'ancien champion paralympique à l'issue d'un réquisitoire long de presque 5 heures. Oscar Pistorius risque une peine de 25 ans de prison s'il est reconnu coupable d'assassinat. Il affirme avoir tué sa petite amie Riva Steenkamp par accident dans la nuit de la Saint-Valentin en 2013. Dernier jour d'audience, demain vendredi. La Cour rendra son verdict à une date ultérieure.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Un avion de chasse survolant la zone rebelle dans l'est de l'Ukraine a été abattu aujourd'hui, selon une journaliste de l'AFP. L'appareil s'est écrasé dans un champ après une apparente explosion et son pilote s'est éjecté.
Le président du Comité international de la Croix-Rouge s'est dit choqué par l'ampleur des destructions et le nombre de victimes civiles en près de 2 mois d'affrontement dans la bande de Gaza. Au terme d'une visite de 3 jours en Israël et à Gaza, Peter Maurer a suggéré de possibles violations des conventions de Genève sur la protection des personnes dans un conflit armé. Les affrontements du mois dernier ont fait 1886 morts dans le camp palestinien, incluant plus de 1300 civils d'après l'ONU. De son côté, Israël a perdu 67 personnes, dont 64 soldats et 3 civils.
Le chef du Pentagone est en visite à New Delhi, en Inde. Chuck Hagel a promis de travailler au renforcement de la coopération militaire entre les États-Unis et l'Inde.
Le secrétaire d'État américain lui s'est rendu en Afghanistan. John Kerry devait exhorter les candidats Abdullah Abdullah et Ashraf Ghani à trouver un accord sur les résultats de la présidentielle. Un audit est en cours après le second tour, mais seulement 18% des suffrages ont été réexaminé, le président sortant Hamid Karzai souhaite la proclamation d'un vainqueur non contesté avant la fin du mois.
Edward Snowden, ancien contractuel de la NSA, l'agence du renseignement, qui a dévoilé des milliers de documents secrets des États-Unis, a obtenu un prolongement de 3 ans de son séjour en Russie. Voilà pour le journal. Il est 18h40, temps universel. Camille Grosdidier et Chérubin Dorcil, en votre compagnie, restez avec nous pour la partie magazine de cette émission.
On reste en votre compagnie jusqu'à 20h, temps universel, bientôt 19h41. Fin du sommet États-Unis-Afrique de Washington, les chefs d'État et de gouvernement qui ont participé à la rencontre font un bilan positif de l'événement. Camille Grosdidier.
En effet, la Voix de l'Amérique a eu un entretien avec le président Blaise Compaoré du Burkina Faso. Il est à la tête de son pays depuis octobre 1987. Et voilà, ses partisans lui demandent de modifier la Constitution pour se représenter en 2015. Une option à laquelle s'oppose farouchement l'opposition, mais aussi la société civile burkinabé. Alors, comment l'intéressé vit ce débat? Eh bien, on écoute la réponse de M. Blaise Compaoré.
Alors, je crois que ce débat, il est bien sûr instructif même pour nous, oui, pour comprendre que dans la République, oui, sur des questions du genre, on peut en débattre librement, mais aussi il y a que la Constitution dispose que le président du Faso, par exemple, peut, sur une question d'intérêt national, proposer au peuple un référendum. C'est ce qui, bien sûr, fait débat. Voilà, mais je pense qu'on ne sort pas du cadre de la République et de la démocratie.
Donc le référendum aura lieu?
Je ne dis pas qu'il aura lieu, mais il est important au moins de noter qu'aujourd'hui, le débat sur la légalité de ce référendum est derrière nous. C'est-à-dire que même dans l'opposition, vous trouvez des personnes leaders qui reconnaissent que ce droit reconnu au président du Faso, ce droit reconnu surtout au peuple burkinabé est un droit qu'on ne peut pas contourner. Mais il n'y a pas de choix encore qui a été fait.
Et ce choix dépend de vous parce qu'il y a eu des manifestations de part et d'autre, mais on attend toujours que le président du Faso se prononce sur la question.
Oui, mais les gens non seulement publiquement font des choix, mais ils discutent aussi entre eux pour voir quelle est la meilleure formule pour bien sûr accompagner bien sûr le choix qui serait fait par nous-mêmes, soit passant par l'Assemblée ou par un référendum. Tout ça, c'est encore des possibilités qui restent pour la République.
Oui. À l'époque, quand le président Mamadou Tandja voulait modifier la Constitution au terme de ses 2 mandats, vous l'aviez critiqué. Est-ce que vous ne pensez pas que vous vous retrouvez un peu dans la même situation que Mamadou Tandja?
Non, nous, la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest a apprécié le contexte nigérien, qui est dans lequel la constitution du Niger n'autorisait pas, comme c'est le cas chez nous, de référendum sur un certain nombre de points. Vous savez, même au Burkina, la constitution interdit un référendum sur l'intégrité du territoire, sur le caractère, la forme et la nature républicaine de l'État et sur le multipartisme. C'est inscrit qu'il n'y a pas de référendum sur ça. Alors que le Niger, c'était plutôt cette question du mandat présidentiel était donc associée à cette interdiction. Voilà pourquoi il y avait un débat différent au Niger.
Oui, et vous savez que le temps court, hein. Est-ce que vous savez quand est-ce que vous allez vous prononcer sur la question, quand est-ce qu'on va avoir le référendum pour aller en 2015?
Oui, mais nous sommes en 2014, donc on a suffisamment à faire avant peut-être de... on ne peut pas placer cette question en tête de nos priorités, quand vous savez que nous sommes là pour un mandat de 5 ans avec un programme. Et je crois que c'est l'exécution de ce programme qui est le plus important pour nous d'abord.
Le président Blaise Compaoré du Burkina Faso.
La Voix de l'Amérique au Burkina Faso sur Ouaga FM, 105.2 à Ouaga et 101.1 à Bobo. La Voix de l'Amérique, c'est aussi sur Horizon FM, Awaga, Bobo, Koudougou, Wayiguya et Fada.
Autre dignitaire interviewé par La Voix de l'Amérique en marge du sommet États-Unis-Afrique, le Premier ministre de la Côte d'Ivoire, M. Kablan Duncan. Il faut dire que la Côte d'Ivoire était représentée par son Premier ministre, fête nationale oblige, ce Sétou Yamoussoukro. Avant de regagner son pays, M. Kablan Duncan a accordé donc cette interview à notre station. Nicolas Pinault lui a demandé quand tous les Ivoiriens bénéficieront des fruits de la croissance dans ce pays qui sort d'une décennie de crise.
Dans la période de crise, ça a été très difficile, elle a duré presque plus de 10 ans. Et la pauvreté a augmenté en Côte d'Ivoire. Vous savez que le taux de pauvreté était autour de 50%. Et le président de la République veut réduire de moitié cette pauvreté sur la période 2012-2015. Donc maintenant, avec la croissance de 9,8% en 2012, 9% donc en 2013, et attendu autour de 10% cette année-ci, les conditions commencent à s'améliorer. Mais vous ne pouvez pas en 2-3 ans, disons que gober l'ensemble.
Donc vous demandez de la patience aux Ivoiriens ?
Non, on leur explique les choses, pour qu'ils comprennent. Le SMIC a été augmenté, vous savez, il était de autour de 36 000, il est passé à 60 000 francs. CFA, nous avons augmenté le salaire des fonctionnaires. Et puis l'emploi est en train de se développer en Côte d'Ivoire. Bien sûr, c'est humain. Plus on avait, plus on demandait. Mais il faut aussi comprendre qu'il faut du temps pour gommer tous les effets de la crise.
Mais est-ce qu'aujourd'hui, vous diriez qu'en Côte d'Ivoire, la crise post-électorale est derrière vous et qu'on a vraiment accompli le chemin de la réconciliation ?
Vous savez, rien n'est définitif ici-bas. Mais ce que je peux dire, c'est que nous progressons fortement. Le gouvernement lui-même a discuté avec les partis d'opposition. Et quand le président Ouattara a bien voulu donc nous désigner comme Premier ministre, nous avons enclenché un dialogue direct avec le FPI. Il y a un accord qui a été fait. Il rentre dans la commission, c'était fait.
Mais il critique toujours le fait qu'il y ait un représentant du président de la République parmi ses 17 membres.
Oui, mais c'est normal qu'opposition critique. Mais elle est devenue constructive puisqu'elle avait refusé au départ. C'est un pas important et ça va vers la réconciliation. Et je pense qu'on va aller avec des élections apaisées, justes et transparentes, de manière à ce que le meilleur gagne. C'est ce que nous souhaitons.
Comment est-ce possible quand beaucoup d'Ivoiriens ont encore l'impression qu'il y a une justice des vainqueurs et vous avez parlé de la crise post-électorale et des 3000 morts et que beaucoup d'anciens partisans de Laurent Gbagbo ont été soit arrêtés, soit jugés, mais que de l'autre côté, dans les partisans d'Alassane Draman Ouattara, beaucoup pour le moment n'ont pas été inquiétés alors que des crimes ont été commis dans les deux camps.
Il y a eu des crimes qui ont été commis par des gens qui étaient en place. Ceux qui ont été pris en flagrant délit ont été donc arrêtés par le gouvernement. Mais effectivement, vous avez raison de dire qu'il faut travailler sur les deux bords. Qu'est-ce qui a été fait ? Le président de la République a mis en place une commission nationale d'enquête qui a sorti son rapport en août 2012. Et la justice est en train de faire son travail. Le temps des politiques n'est pas le temps de la justice. La justice doit être sereine et faire son travail. C'est ce qu'elle est en train de faire.
Y compris pour les com-zones, ce qu'on appelle les com-zones.
Tout le monde, tous ceux qui auraient commis des fautes, disons que des tueries, disons que des crimes de guerre, ceux qui relèvent donc de ces crimes là-bas seront jugés.
C'était le Premier ministre ivoirien Daniel Kablan Duncan.
La Côte d'Ivoire a célébré aujourd'hui, 7 juillet, sa fête nationale. Le point avec notre correspondant sur place, Germaine Dri.
La cérémonie qui comporte deux phases a commencé par le défilé composé de 42 détachements militaires et paramilitaires dont les forces de l'ONUCI, l'Organisation des Nations Unies en Côte d'Ivoire, la force française Licorne et la première promotion féminine des enfants de troupes. Pour la deuxième partie, il s'est agi de distinguer les personnalités qui ont, d'une part ou d'une autre, contribué à la réussite de quelques grands projets. À l'issue de cette fête annuelle, les Ivoiriens ont donné leur avis sur la gestion des affaires du pays. Dans l'ordre, Albert Flendé, ancien ministre, Zié Daouda, président du groupe Espoir, Noël Akossi-Bendo, maire du plateau et Madame Condé, directeur général de la Soderto.
On a subi des crises, mais on se relance avec l'arrivée du président Ouattara, avec tous les résultats qu'il est en train de donner au niveau de son programme.
La Côte d'Ivoire vient de loin, c'est donc une célébration particulière, doit amener tous les Ivoiriens, n'est-ce pas, à faire leur examen de conscience et à se dire, à partir de cette année, c'est une année de départ.
Nous espérons tout simplement que la Côte d'Ivoire, qui a retrouvé sa place, va continuer de façon à ce que son développement profite non seulement aux populations, mais à l'ensemble de la sous-région.
Il y a beaucoup de choses à faire et je pense qu'en prenant l'excellence, chacun de nous en tant qu'Ivoirien doit s'approprier ce mot et faire en sorte que dans nos vies de tous les jours, nous fassions en sorte que ce soit l'excellence qui prime.
Germaine Dri, Abidjan, La Voix de l'Amérique.
Ici Washington.
Vous êtes à l'écoute du Monde aujourd'hui.
– Ici Washington, la Voix de l'Amérique, République démocratique du Congo, eh bien les avis sont partagés dans ce pays autour de la tenue ici à Washington du sommet États-Unis-Afrique. Les opinions varient selon les différentes tendances politiques. On va écouter quelques réactions d'habitants de Goma dans le Nord Kivu au micro de notre correspondant Primo Pascal Rudaigua.
Quelques acteurs de l'opposition pensent que ce sommet est une occasion de plus pour Barack Obama de rappeler au chef de l'État congolais et sa majorité de ne pas modifier la constitution pour briguer un autre mandat à la tête du pays. Rubens Mikindo est de l'UDPS.
Pour les États-Unis, c'est une occasion de tirer les oreilles à certains présidents qui veulent s'accrocher au pouvoir en tripatouillant leur constitution. Le vice-président américain Joe Biden avec le secrétaire d'État américain John Kerry ont réuni 3 présidents. Et ce n'est pas par hasard. Le président du Burkina Faso, le président du Burundi et le président du Congo à la personne de M. Kabila. Et le message a été, on ne peut plus clair, c'est-à-dire ne touchez pas à la constitution et respectez la démocratie dans vos pays respectifs.
Pour certains cadres de la majorité présidentielle, le président congolais n'a pas d'injonction à recevoir du président américain. Léonie Moguelwa est cadre du PPRD au Nord Kivu.
Notre pays est un pays souverain. La République démocratique du Congo ne dépend pas des États-Unis. Nous sommes un pays souverain. Nous dépendons de nous-mêmes. Le président Obama n'est pas là pour donner des instructions au président Kabila.
Les analystes politiques ont plutôt une autre lecture de cette rencontre. C'est le cas du professeur Godefroy Kamana.
On convoque les Africains pour discuter avec eux de ces enjeux politiques qui sont importants pour les États-Unis. Obama, je crois qu'il a compris qu'il ne peut pas laisser l'Afrique dans l'état des dictatures, dans l'état de non-respect de la Constitution. Il veut affirmer quand même certaines valeurs. Ce sommet est un sommet d'affirmation des valeurs politiques essentielles auxquelles les États-Unis tiennent.
Il pense également qu'au-delà des enjeux politiques, c'est une occasion du président américain de positionner son pays en Afrique par rapport aux enjeux économiques et culturels de l'heure.
Le combat de l'hégémonie mondiale se joue entre les États-Unis et la Chine. Et dans ces combats-là, c'est lui qui a l'Afrique, c'est celui qui aura l'hégémonie mondiale. Et du point de vue de ses intérêts économiques, Obama a compris qu'il faudrait maintenant relancer les relations entre les États-Unis et l'Afrique. Il y a aussi maintenant une dimension culturelle. L'Amérique face à la Russie, face à la France, l'Amérique veut rayonner et faire rayonner sa culture. Et pour faire rayonner sa culture, l'Afrique demeure un vaste espace où c'est lui qui pourra maîtriser les jeux politiques, économiques, pourra aussi faire promouvoir sa culture.
Depuis Goma, Primo Pascal Rudaigua pour La Voix de l'Amérique.
L'une des causes de la propagation du virus Ebola en Afrique de l'Ouest reste les pratiques culturelles et religieuses, parfois contraires aux mesures préventives recommandées par l'Organisation mondiale de la santé. Lola Akomachri a joint à Conakry le docteur Mamadi Koulibaly, directeur du Centre international de recherche pour les infections tropicales en Guinée.
Tradition oblige. Maintenant, lorsque un cas est confirmé, qu'il meurt, la tradition fait qu'on se débarrasse très difficilement du cadavre de son parent. Il y a des rites qu'il faut mettre en œuvre et au cours de ces rites, par exemple, la préparation du corps avant l'enterrement, tout cela se fait sans précaution particulière parce que les parents ignorent tout de la gravité et de la dangerosité, c'est-à-dire la super transmission de cette maladie, de ce virus à l'homme. Même le véhicule qui a servi à son transport de la maison à l'hôpital. Alors, il s'agira d'identifier le véhicule, le conducteur, tous les parents proches qui sont occupés de ce patient jusqu'à son expédition à l'hôpital pour les soumettre à une forme de traitement très spécial, mais malheureusement, souvent par ignorance, et le fait aussi que cette maladie éclate en Guinée pour la première fois, et à cela ajouter les pratiques rituelles, il arrive dans certaines communautés que les parents, les habitants repoussent ou n'apprécient pas en tout cas que le cadavre de leur proche soit retiré et qu'on ne leur permette pas de l'approcher pour procéder à ces pratiques rituelles-là. Et voilà tout un scénario qui est favorable à la diffusion et à la propagation du virus au sein de la population.
Mais on a remarqué également qu'au Nigeria, notamment, la plupart des victimes sont membres du corps médical ou des personnes qui ont été en contact lors du traitement des patients. Comment cela se fait-il?
Et là, il faut dire que si nous prenons le cas spécial du Nigeria, lorsque un patient se présente au clinicien avec la fièvre, nous investiguons d'abord, en premier lieu, le palu et on procède par élimination. Mais le temps de s'adresser au patient en suspectant, par exemple, le paludisme, cela est un temps suffisant pour faire le contact avec le virus. C'est ainsi que beaucoup de patients, beaucoup de médecins ont eu à contracter le virus et beaucoup en sont morts.
Le docteur Mamadi Koulibaly, directeur du Centre international de recherche pour les infections tropicales en Guinée.
Un coup d'œil sur l'actualité sportive. Avant de mettre fin à cette édition, on accueille en studio Félix Yepassi Zembro. Salut Félix.
Bonsoir cher Robin.
La Mauritanie n'a plus de sélectionneur.
En effet, en poste depuis plus de 2 ans, Patrice Neveu a été limogé de son poste de sélectionneur de la Mauritanie. Une décision qui fait suite à l'élimination des Moura Bitoun de la course à la CAN 2015.
En revanche, le Nigeria devrait conserver son sélectionneur.
Stéphane Keshi, le sélectionneur qui a conduit le Nigeria en 8e de finale du Mondial au Brésil, devrait renouveler son contrat la semaine prochaine, a escompté jeudi la Fédération nigériane de football, NFF. Le premier contrat de Keshi, 52 ans, prenait fin à l'issue du Mondial où son équipe s'est inclinée en 8e face à la France, 2-0. Nous nous attendons à une signature la semaine prochaine afin qu'il puisse reprendre le travail dans la perspective de toute proche des qualifications pour la Coupe d'Afrique des Nations 2015, a déclaré le porte-parole de la NFF, Mekaïa Macheruba.
Merci Félix Yepassi Zembo.
Wait till you're announced. We've not yet lost all our graces. The hounds will stay in chains. Look upon your greatness and she'll send the call out, 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 send the call out.
Alors, comme chaque soir, Camille, on termine la musique.
Oui, et ça, c'est la nouvelle sensation australienne, Lord. Une fille absolument étonnante, elle a 18 ans et elle est en train de conquérir le monde entier. On l'écoute.
C'était Lord dans Team. On abandonne la musique car c'est la fin du monde aujourd'hui. Michel Joseph a dirigé la mise en onde.
Laissez-nous vos messages sur la page Facebook de La Voix de l'Amérique. Prochain rendez-vous
Plus tard, demain,
oui.
À la même heure, soyez avec nous. Mais ne partez pas, voilà que Roger Muntu arrive dans le studio pour la musique.